Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Encore deux jours à moins de 100 km de chez soi mardi. Fin de la limitation, mais en ce long week-end de Pentecôte, le beau temps aidant, la tentation est grande de les franchir ces 100 km. Découvre-feu dans une dizaine de villes américaines. Nouvelle nuit de tension, 6 jours après la mort d'un Afro-Américain suite à son interpellation à Minneapolis. Donald Trump lui promet de mettre fin aux manifestations violentes contre les brutalités policières. Donald Trump qui vit également comme une victoire personnelle le succès de la société privée SpaceX, décollage réussi d'une fusée avec deux astronautes à bord direction l'ISS. La géopolitique, quels sont les pays gagnants, les prédateurs, ceux qui sont des proies, États-Unis, Chine, Russie et nous, thème du dernier livre de votre invité à 8h20, Eric.
Oui, ce sera François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il publie donc Le Temps des Prédateurs aux éditions Odile Jacob. Et vos questions, c'est dès maintenant 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, Pierre Moscovici, bientôt nommé à la tête de la Cour des Comptes, un auteur en lice pour le livre Inter, le dernier, ou plutôt la dernière avant délibération. Et puis le temps idéal pour les amateurs de pétanque, sport collectif autorisé avec des règles de distanciation strictes.
France Inter.
La règle reste en vigueur jusqu'à mardi prochain. Interdiction de circuler au-delà de 100 km de son domicile à vol d'oiseau, sauf évidemment motif professionnel ou familial impérieux. Dans deux jours, nouvelle phase de déconfinement, plus de limitation de distance. Difficile dans ces conditions de respecter cette ultime interdiction. Mathilde Imberti s'en est rendu compte en parcourant l'autoroute du Soleil au sud de Lyon.
Petite pause pour Jean-Noël sur l'autoroute A7. Il rejoint sa famille au Mont-Gerbier-de-Jonc, ce qui fait plus de 100 km de chez lui dans le nord de l'Isère.
Alors écoutez, là je me rends en Ardèche. En théorie, je dépasse. Mais bon, je prends le risque. Voilà. Je n'étais pas venu le week-end de l'Ascension. Et là, tant qu'il y a eu le confinement, je suis resté où j'ai été. Mais là, quand ils ont commencé à débrider, si j'ose dire, je ne me suis pas fait arrêter, il n'y a eu personne.
Pour un contrevenant, beaucoup d'automobilistes respectueux, sur l'autoroute du Soleil, aire d'Auberive, on croise essentiellement des citadins en mal de nature.
Oui, exactement, on avait besoin de sortir, de s'aérer, donc on va dans un gîte et ce sera très sympa.
Nous, on vient de Lyon et on va juste à Valence, dans la Drôme. 100 km, on a loué une petite maison pour le week-end, histoire de pouvoir changer d'air et d'avoir accès à un jardin, tout simplement.
On va faire un petit week-end en Ardèche. On vient de Lyon, donc on a vu que c'était dans la limite des 100 km maxi. Oui, le week-end prochain, on ira plus loin, une fois qu'on aura le droit.
Les forces de l'ordre qui, dans le Rhône, effectueront une centaine de contrôles ce week-end confirment qu'il n'y a pas de recrudescence de fraude aux 100 km. Par contre, un relâchement des comportements avec de nombreux excès de vitesse. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et mardi également, la réouverture des bars et restaurants, à part en Ile-de-France, où seules les terrasses sont autorisées. D'ailleurs, la maire de Paris, Anne Hidalgo, annonce aujourd'hui dans Le Parisien que les cafés et autres brasseries pourront occuper gratuitement une partie de l'espace public avec les terrasses. Et toujours en Ile-de-France, on attend dans la journée normalement des précisions sur les transports en commun à partir de mardi. Un décret de la préfecture qui va détailler les conditions d'utilisation, puisque jeudi, dans son allocution, le Premier ministre n'en a pas parlé. Mais Matignon, plusieurs ministères et la région Île-de-France sont en discussion. On devrait donc rapidement savoir, Manuel Ruffès, notamment si la distance, 1 mètre d'écart entre deux passagers, reste d'actualité.
Ce qui est certain, c'est que la règle du masque obligatoire sera toujours en vigueur. L'inconnu et le principal changement qui pourrait intervenir, c'est sur la distanciation. Avec les mesures appliquées actuellement, Île-de-France Mobilité ne peut transporter que 20% de ses passagers. Si demain c'est assoupli, qu'on passe par exemple à 2 passagers par mètre carré, le chiffre pourrait grimper à 50%, soit 2,5 millions de voyageurs. D'autant que mardi, l'offre de transport d'Île-de-France redémarre en totalité, et sans doute avec cette deuxième phase de déconfinement, beaucoup de travailleurs vont reprendre le chemin de leur entreprise. C'est au gouvernement de prendre la décision, pas à nous, souligne-t-on du côté d'Île-de-France Mobilité, qui prévient déjà que, si la règle de distanciation ne change pas, il faudra encore et toujours les attestations, les étalements d'heures de pointe et des forces de l'ordre pour éviter la cohue dans les gares.
Manuel Ruffès.
À Minneapolis, aux États-Unis, la police a donc chargé, pour la première fois, elle a chargé les manifestants.
5e nuit de manifestation qui font suite à la mort de George Floyd, afro-américain d'une 40aine d'années, après une interpellation violente. Un policier arrêté, inculpé d'homicide involontaire et un couvre-feu instauré à Minneapolis pour la 2e nuit. La première, elle a été largement bravée. Alors cette nuit, les policiers avaient pour consigne de passer à l'action, raconte Tania, une habitante au micro de Loïc Loury, envoyé spécial de France Inter à Minneapolis.
On était là sur notre porche et la police arrivait par là avec des blindés, hurlant à tout le monde de rentrer à l'intérieur. Et on se tenait là, on regardait, on leur disait que c'était une propriété privée, qu'on vivait ici. Et ils ont crié « Rentrez, rentrez, on vous a dit de rentrer ». Mais on est resté là et alors un de ces types a hurlé « Allumez-les ». Et ils ont commencé à nous tirer dessus avec des cartouches à encre. Deux d'entre nous ont été touchés et ils font ça pour pouvoir vous identifier plus tard, afin de vous arrêter. Et de ce que je sais, c'est la première fois qu'ils investissent les zones résidentielles. Tirer sur les gens sur le pas de leur porte, on n'est pas dans la rue.
Tania, habitante de Minneapolis, des manifestations contre la brutalité policière dans d'autres villes américaines, New York, Chicago, Miami, mais également des couvre-feu dans une dizaine de villes comme Los Angeles, Philadelphie ou Atlanta. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Estelle.
Correspondante France Inter à Washington, on le voit, la colère ne retombe pas loin de là et le président Trump hausse le ton.
Oui, parce que certes, il y a eu l'arrestation du policier filmé lundi à Minneapolis avec son genou posé sur le cou de George Floyd et son inculpation, mais inculpé seulement, si je puis dire, pour homicide involontaire. Et les manifestants réclament aussi l'interpellation de 3 autres policiers aperçus sur ces images vidéo. Mais au-delà, ce qui explique aussi que cette colère ne retombe pas, c'est que le nom de la victime, George Floyd, s'ajoute à une liste déjà longue. La plus récente, Breonna Taylor, tuée en mars par des policiers à Louisville, Kentucky, alors qu'elle dormait chez elle. Beaucoup des manifestants rencontrés ce soir, hier soir, me disaient « Être noir en 2020 en Amérique, c'est encore être exposé à ce type de danger ». Donc non, la colère ne retombe pas. De plus en plus de villes, même de taille moyenne, des moines par exemple dans l'Iowa sont gagnés par ces manifestations. Il y a aussi des pillages que j'ai pu constater cette nuit dans les rues de Washington. Trump, lui, voit tout cela depuis la Maison Blanche où il est rentré hier soir après un déplacement rapide en Floride pour assister au lancement de la fusée SpaceX. Et depuis Cap Canaveral, le président américain a dénoncé les émeutiers, les pilleurs et les anarchistes de l'extrême gauche radicale à l'œuvre, selon lui, dans ces rassemblements.
Grégory Phillips, correspondant de France Inter à Washington. Et vous l'avez dit, le président Trump a assisté au décollage réussi du vaisseau qui transporte actuellement 2 astronautes de la NASA vers la Station Spatiale Internationale. SpaceX qui devient la première société privée à lancer des hommes dans l'espace. Opération plus qu'importante pour les États-Unis qui, depuis la mise à retraite des navettes, dépendaient des autres. Mais victoire, toutefois, inachevée, selon Lionel Suchet, directeur général délégué du Centre National d'Études Spatiales.
C'est une énorme fierté de pouvoir enfin refaire voler des astronautes américains avec un lanceur américain depuis le sol américain. Et pendant 9 ans, ils ont dû acheter des Soyouz aux Russes pour envoyer leurs astronautes sur l'ISS. Le vol spatial habité, l'aventure et l'exploration spatiale, c'est une grande coopération. Mais quand même, je dois dire qu'ils l'avaient un peu mauvaise et ils attendaient ce moment avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Et je pense qu'ils sont très soulagés que ce décollage se soit bien passé, bien que ce ne soit pas la fin de la mission. Parce que maintenant, il faut réussir l'amarrage à la station spatiale et puis le retour au sol qui passera dans quelques mois. Et tout ça, ce sont des phases aussi très critiques de cette mission d'essai.
Lionel Suchet interrogé par Sophie Bécherel. L'amarrage de la capsule attendu à 16h27 heure de Paris après 19 heures de vol.
Oui, il y a eu aussi cette annonce du président américain durant son retour de Cap Canaveral.
Donald Trump reporte à septembre le sommet du G7 prévu fin juin. Il souhaite également y inclure Australie, Russie, Corée du Sud et l'Inde. Les États-Unis où plus de 103 000 personnes sont mortes du coronavirus, mais le Brésil est devenu le 4e pays au monde devant la France qui a enregistré le plus de morts, près de 29 000. Le Brésil où les politiques sont divisées, certains appliquent des quarantaines partielles alors que le président considère ces mesures comme une ruine économique. Jair Bolsonaro qui vante également les mérites de la chloroquine alors que l'Organisation mondiale de la santé a suspendu ses essais cliniques. La correspondance au Brésil d'Olivier Poujade.
À une centaine de kilomètres au nord de São Paulo, la capitale économique brésilienne, les habitants de Porto Feliz ont été placés en quarantaine. Contrôle strict à l'entrée de la ville et à l'intérieur, une unité de soins intensifs particulièrement efficace, d'après le témoignage de sa responsable Ana Paula dos Santos.
Sur les 150 cas que l'on a ici, 37 ont été admis dans notre unité, 35 ont déjà récupéré.
Des résultats attribués à la distribution d'un kit Covid, un cocktail de médicaments comprenant des doses de chloroquine. Le maire de Porto Feliz Antonio Cassio Prado en est particulièrement fier.
Ce kit coûte moins de 10 euros et il n'y a aucune raison que les gens ne l'utilisent pas. Son efficacité est prouvée.
Seuls les partisans du président brésilien Bolsonaro soutiennent ce genre d'initiative. Tous les scientifiques du pays, comme Jorge Salou, chercheur en médecine de soins intensifs à l'université de Rio, tous sont contre la prescription de cette molécule. Le ministère de la Santé brésilien, lui, la recommande.
Ça crée une confusion et ça met les médecins sous la pression des familles. Qui ont peur de ce virus et leur réclament ce traitement.
Le mois dernier, une étude préliminaire sur l'efficacité de la chloroquine a subitement été interrompue. Ici, sur les 80 patients testés, 11 ont trouvé la mort à cause d'un dosage de chloroquine trop élevé.
Voilà, le reportage au Brésil d'Olivier Poujade. En France, Estelle, l'Élysée a confirmé la nomination de Pierre Moscovici à la tête de la Cour des comptes.
Un poste resté vacant depuis 6 mois, le départ de Didier Migaud pour la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nomination attendue qui devrait être actée mercredi en Conseil des ministres. Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie et des finances, puis commissaire européen aux affaires économiques. En somme, il coche beaucoup de cases pour le poste, Fabien Cazot.
Dans la foulée de ses prédécesseurs immédiats, Pierre Moscovici prend la tête de la Cour des comptes avec une double légitimité. Économique, il a été le commissaire européen chargé de veiller au sérieux budgétaire des pays membres de la zone euro. Et politique, ancien député, ancien ministre à Bercy, précisément chargé de veiller sur les comptes publics de la France. Une période sous François Hollande, pendant laquelle le déficit public s'est réduit sans pour autant parvenir à l'objectif des 3% du PIB fixé au niveau européen. Alors que désormais les prévisions de dette et de déficit public explosent sous l'effet de la crise sanitaire du coronavirus, Pierre Moscovici devra à la fois incarner la fonction de gendarme des comptes publics tout en faisant preuve de sens politique face au contexte économique et social qui nécessitera de considérables efforts de relance, donc d'endettement public, une forme d'en même temps impulsée au sommet de l'État que Pierre Moscovici sera chargé de traduire à sa manière avec les sages de la rue Cambon.
Fabien Cazot, et c'est une dernière ce matin, dernière rencontre avec un candidat du Livre Inter avant le résultat le 8 juin. Monica Sabolo était l'invitée du journal de 13h hier pour son livre Eden aux éditions Gallimard, l'histoire d'une bande d'ados autochtones dans une forêt du Grand Nord. La forêt, véritable personnage, est un lieu de transformation, de courage et de passage à l'acte pour ces jeunes. Et Monica Sabolo a voulu donner à son récit une dimension universelle.
J'avais envie de quelque chose qui soit assez universel dans le sens que ces adolescents autochtones, ce sont également pour moi la représentation de l'outsider, de la marge, de celui qui est immobile et qui est hors du système, avec ce que ça représente de fragilité et en même temps de capacité de mise en action, de mouvement et de... Donc j'avais envie que cette idée de l'autochtone en tant que identité soit peut-être plus vaste et puisse parler à chacun de nous, dans le sens que cette sensation d'être immobile, puisque ces jeunes filles, elles sont au bord d'une route où les camions ne cessent de passer, où quelque chose semble aller quelque part, alors qu'elles, elles sont contraintes de faire de l'autostop, qu'elles ne peuvent pas partir. Finalement, c'est quelque chose qu'on ressent chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, il me semble, à un moment de notre existence.
Monica Sabolo, interrogée par Eva Bétan. Les 24 jurés du Livre Inter délibèrent le week-end prochain sous la présidence, vous le savez, de Philippe Lançon, lauréat révélé dans la matinale du lundi 8 juin.
Allez, pour terminer, ça vous dit une petite partie?
Une partie de pétanque, beau temps, détente, quoi de mieux en ce week-end de déconfinement? Un sport considéré comme collectif, mais qui peut reprendre, est autorisé avec des règles sanitaires strictes, pas forcément faciles à respecter. Reportage en Provence, Fanny Le Chevestrier.
Yves Montand, il jouait juste ici, avec Lino Ventura également.
Et vous aurez peut-être deviné avec l'indice donné par notre guide Marine, nous sommes dans un haut lieu de la pétanque à Saint-Paul-de-Vence. Tant ce sport ici est une institution, presque une hygiène de vie, nous décrit Patrick.
C'est la vie du village, tous les jours, là, il y a les anciens, les retraités, on se rejoint ici. À l'habitude, c'est plein, je sais pas, 50, 60 joueurs.
Mais peu de monde, encore hier. Patrick, lui, est revenu jouer pour la première fois, non sans émotion.
Ah oui, ça fait du bien, surtout quand on est à la retraite et qu'on fait le jardin pendant 3 mois. On est content de jouer au boule. C'est comme le vélo. On tombe une fois, après on se remet dessus.
En revanche, quand on lui parle des nouvelles règles sanitaires...
Je ne suis pas au courant du tout des consignes. Moi j'ai mes boules, chacun a ses boules et puis voilà.
Alors chacun ses boules, c'est déjà bien. Mais la liste des consignes est un peu plus garnie. Par exemple, les doublettes ou les triplettes, les parties en équipe de deux ou trois sont interdites. Mais les joueurs ne s'en cachent pas, ils ont vraiment du mal à changer leurs habitudes. Comme ici, place Saint-Pierre à Cannes-sur-Mer, où Paco et ses amis s'affrontent pour une partie endiablée.
Oui, on les respecte plus ou moins, pour être honnête, c'est vrai. Mais bon, c'est la vie qui reprend, on n'a pas de masque. Ah, le cochonnet, j'avoue qu'il y en a un, des fois il passe d'une main à l'autre.
Naturellement, ils se retrouvent tous autour du cochonnet pour déterminer qui marque le point.
Tu n'as pas donné rien, tu te laisses influencer. Hein.
Impossible de faire autrement, nous disent Joe et Eric. Les retrouvailles sont plus fortes que tout.
Ça nous a manqué beaucoup, parce qu'on est des amis de 40 ans, donc on se connaît trop bien. Et
on n'attend plus que l'ouverture des bars.
Et qu'Eric se rassure, ça sera bon pour le week-end prochain, et même dès mardi, à condition, on le rappelle, de respecter le mètre d'écart.
Fanny Lechevestrier, le point est pour vous, Patricia et Eric.
C'était le journal d'Estelle Schmitt. Le temps de ce dimanche.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Et toujours ce soleil, Jean-Michel Golinski.
Pas de changement notable dans la situation atmosphérique aujourd'hui. Et comme hier, un risque pluvieux orageux va naître passé la mi-journée sur le relief des Alpes, du massif central de la Corse et des Pyrénées. Si l'essentiel de la stabilité cesse en fin d'après-midi, côté Pyrénées, elle va perdurer en cours de nuit prochaine avec une propagation vers l'Aquitaine. Sinon, partout ailleurs, le soleil va à nouveau rayonner, parfois un peu retardé en début de matinée par des grisailles plus soudées dans le golfe du Lion, et puis le vent d'Est sera assez sensible sur les régions de la moitié nord. Les températures de l'après-midi, partout confortables pour la période et souvent stationnaires, vont afficher 21 à 25 près de la Manche et des frontières de l'Est à la Corse, 25 à 30 degrés sur une large moitié ouest, avec des pointes à 32 sur l'Aquitaine.